On a longtemps pensé que la mer était inépuisable, que l'océan possédait des ressources infinies, que les fleuves ne se videraient jamais. Et pendant une trentaine d'années, l'évolution de la pêche dans le monde pouvait le laisser croire, puisqu'en 30 ans, les pêcheurs ont multiplié leurs prises par 4. En 1959, on retirait 20 millions de tonnes de poissons du fond des mers, des fleuves et des lacs. En 1989, on dépassait les 100 millions de tonnes. Et puis, tout s'est gâté. Année après année, océans, mers, lacs et fleuves ont été plus avares. Et du Pérou à l'Inde, de Namibie en Norvège, les pêches n'ont plus été miraculeuses. Les poissons se sont faits plus rares dans des eaux épuisées. Il faut bien dire qu'en mer, que pour l'eau, l'homme a été aussi imprévoyant que sur terre ou dans les airs. Il a pollué, surexploité, gaspiller à tout va des ressources qu'il croyait inépuisables. Résultat, aujourd'hui, la moitié des stocks de poissons est menacée de disparition. Déjà, les pêcheurs trouvent moins facilement la morue, l'aigle fin, la sardine, le lieu, le hareng, le thon, le calamar, la langouste, la crevette, le crabe, le tiof ou le maquereau. Sans parler du mérou, dont les prises ont chuté de 80%, ou de l'espadon qui a diminué de moitié dans l'Atlantique. Une situation qui inquiète de plus en plus les organisations internationales et en premier lieu la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Car le poisson représente pour de nombreux pays, et des pays pauvres notamment, un aliment primordial. C'est pour cela que la FAO vient de réunir une nouvelle fois à Rome son comité des pêches. But de cette rencontre internationale, l'adoption d'un code de conduite pour une pêche responsable. Un code de conduite qui réaffirme que la pêche apporte une contribution fondamentale à l'alimentation de tous les peuples du monde. Un code de conduite par lequel les États et tous les utilisateurs des ressources aquatiques s'engageraient à protéger et à conserver les richesses des eaux marines ou fluviales. Aussi, en coproduction avec la FAO, ce magazine Question a-t-il voulu en savoir plus sur la situation de la pêche dans le monde d'aujourd'hui et sur les mesures qu'il fallait prendre. Pour cela, sont réunis dans les studios de la FAO à Rome M. Mathieu-Ange Laclé, ministre mauricien des pêches et des ressources marines, et M. Serge Garcia, directeur à la FAO de la division des ressources halieutiques. Messieurs, merci d'avoir bien voulu accepter de participer à cette émission. Mais avant d'entendre les premières questions des radios et des autres confrères, quelques mots sur la situation actuelle. Est-ce que le tableau qui a été brossé de la pêche actuelle dans le monde est exact, vous semble exact? Comment est-ce qu'on peut qualifier la situation actuelle de la pêche? Est-elle catastrophique? Est-ce que c'est une situation qui peut être encore enrayée? Est-ce qu'elle est irréversible? Monsieur Garcia.
La situation de la pêche est sérieuse. Le diagnostic qui en est fourni est, je l'espère, correct, puisque c'est en grande partie la FAO qui émet ce diagnostic sur la base des informations qu'elle réussit à collecter un peu partout. Elle est catastrophique, mais je crois qu'il faut expliquer à la fois pourquoi elle est catastrophique et pourquoi la situation n'est pas désespérée si les mesures nécessaires sont adoptées. Elle est catastrophique parce que, dans l'état, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que plus l'homme prélève des ressources de la mer pour les mettre sur sa table, moins il reste de ressources dans l'eau. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Si on réduit nos prélèvements, on augmente la biomasse qui reste dans l'eau. En revanche, si on augmente nos prélèvements, on réduit la biomasse qui est dans l'eau. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la catastrophe vient de la performance. La raison pour laquelle il reste assez peu de poissons, en général, disons, dans l'eau, c'est parce que nous en avons 100 millions de tonnes sur la table. Donc, d'un côté, on parle de situation catastrophique, mais c'est une situation catastrophique qui correspond à la collecte miraculeuse que nous faisons tous les jours. Donc, d'un côté, c'est catastrophique parce que nous savons qu'un certain nombre de ces ressources courent un risque. Elles courent le risque d'être dégradées et donc de ne plus être disponibles pour les générations futures. D'autre part, elle n'est pas catastrophique dans la mesure où nous sommes capables depuis des années d'extraire 100 millions de tonnes par an. C'est tout de même une performance. Et je crois qu'il faut arriver à bien équilibrer ces deux évaluations, en particulier quand on parle des pêcheurs comme étant une profession qui tente à surexploiter les océans, et nous discuterons peut-être des raisons pour lesquelles cela existe. Il faut aussi penser que c'est une profession de gens extrêmement courageux, travaillant dans une des industries qui est la plus dangereuse du monde, où le taux de mortalité chez les employés est le plus élevé du monde, et que ces gens arrivent à mettre bon an mal an 100 millions de tonnes de nourriture sur la table, sur notre table, nous les humains. Donc la situation pour les stocks n'est pas bonne, parce qu'ils sont en général à un niveau trop bas. On admet en général, par exemple, que la plupart des stocks sont à moins d'un quart de leur abondance originale. C'est-à-dire qu'il reste aujourd'hui 4 fois moins de poissons dans l'eau, en moyenne, qu'il y en avait il y a un siècle, par exemple. Elle est catastrophique aussi pour une bonne raison, c'est que même si un grand nombre de ces ressources, 40 à 50% des ressources mondiales, sont ce que nous appelons à la FAO pleinement exploitées, c'est-à-dire que si on restait à ce niveau-là, ce serait très bien. Nous considérons la situation comme catastrophique parce que les gouvernements jusqu'à maintenant n'ont pas démontré leur capacité à arrêter l'effort de pêche quand on atteint ce niveau critique. Donc il y a un certain nombre de pêcheries qui ne sont pas aujourd'hui dans une situation désastreuse, aujourd'hui, mais qui le seront vraisemblablement dans 5 ans si on ne prend pas les décisions.
Monsieur Laclais, l'exemple de votre pays, l'exemple de Maurice, est-ce qu'il vous permet de vérifier justement cette situation catastrophique ou est-ce que vous êtes plus nuancé ?
Lorsqu'on parle de situation catastrophique, je veux le dire bien franchement, les petits pays insulaires en voie de développement ont tendance à respecter les normes de la FAO. Plus ils sont petits, plus ils respectent les conditions de la FAO parce qu'ils savent que leur vie dépend de ce qu'ils vont prendre. Vous voyez ? Ils ne vont pas surexploiter, même s'il y a surexploitation dans ces pays. Les gouvernements ont tendance à mettre des barrières pour qu'à l'avenir, on puisse avoir des possibilités d'avoir des produits de la mer pour subvenir aux besoins de la population. Parce qu'il ne faut pas oublier, les tendances alimentaires dans ces pays se trouvent aujourd'hui confrontés à des problèmes. Les gens ont tendance, pour des raisons de santé, à prendre plus de nourriture de la mer. C'est à cause de ça que les gens, les gouvernements de ces pays prennent des dispositions à ce qu'il y ait des possibilités pour qu'à l'avenir, on ait de la nourriture suffisamment pour que les gens puissent se nourrir.
Justement, Maurice, quelle est l'importance du poisson dans la nourriture des Mauriciens ?
Avec les nouvelles habitudes alimentaires, les gens ont tendance à se rabattre sur les produits de la mer.
Mais ça intervient pourquoi ? 50%, 40%, 30% dans la nourriture ?
Mais peut-être plus de 40, plus de 50 même, parce que les gens aujourd'hui, lorsqu'ils vont au marché, la première des choses qu'ils demandent, c'est le poisson, les produits de la mer. Ouais, ils ont tendance à se rabattre moins sur les viandes rouges. Ils prennent du poulet, mais après le poulet, à Maurice, c'est le poisson. Mais s'il y avait des possibilités de prendre plus de poisson, les gens aujourd'hui prendraient du poisson.
Serge Garcia.
Oui, il est exact que dans les statistiques de la FAO de consommation par tête d'habitant, la plupart des pays îles arrivent très très loin devant les autres pays consommateurs. Il y a très très peu de grands pays consommateurs ayant une consommation par tête d'habitant équivalente à celle des pays îles. Donc je ne peux que confirmer l'importance stratégique du poisson pour ces pays. En ce qui concerne l'état des ressources, je crois qu'il faut dire deux choses. Très souvent, les ressources côtières, vous savez, la plupart des pays îles sont géographiquement, ce sont des petits morceaux de continent placés au milieu d'un océan immense. Ils ont en général un petit anneau de ressources côtières absolument réduit, assis au milieu d'une zone océanique de 200 000 de rayon, qui est vraiment immense et qui contient des ressources souvent importantes. Le problème, c'est que les ressources côtières qui leur appartiennent en propre sont très souvent surexploitées par les populations locales. En revanche, les ressources de la haute mer, disons, qui les entourent et qui sont potentiellement importantes, sont des ressources qui sont très souvent des poissons grands migrateurs. Ces poissons sont exploités déjà par d'autres nations souvent à l'extérieur de leur zone économique exclusive. Et donc, les pays, ils sont des pays qui sont très vulnérables de ce point de vue, parce que la grande proportion de leurs ressources marines sont des ressources qui peuvent être affectées par les autres.
Alors justement, on dit qu'il y a deux grands dangers qui guettent la pêche. C'est d'une part la surexploitation et d'autre part les pertes et le gaspillage. Alors, dans la surexploitation de chiffres, la FAO dit qu'il y a à peu près, bon an, mal an, 70 millions de tonnes de poissons disponibles dans les mers et dans les océans par an. Or, on en pêche actuellement entre 80 et 100 millions de tonnes. Donc, on préserve, on prélève sur les stocks de poissons. Par ailleurs, il y a aussi le fait que la consommation de poissons augmente, le ministre mauricien vient de le dire, et que d'ici l'an 2000, eh bien, il va y avoir 20 à 30 millions de tonnes de déficit par an. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer ces chiffres, M. Garcia ?
Tout d'abord, en ce qui concerne, vous avez parlé tout à l'heure des dangers qui menacent les ressources. Il y en a deux. Un, c'est la surexploitation. L'autre, c'est la dégradation des environnements dans lesquels se développe la ressource. Et on peut revenir, si vous voulez, un peu au problème des pays-îles. Un des grands dangers dans les pays-îles, c'est la dégradation potentielle des ressources côtières due à la dégradation des environnements des pays-îles. Parce que la pression démographique sur l'île se traduit aussi en matière d'agriculture, d'utilisation des eaux, de pollution, d'eau usée, etc. Et dans le cas des îles, c'est un problème particulièrement grave. Les stocks de poissons, il est très difficile de savoir quel est le potentiel total des océans pour deux raisons. D'abord parce que c'est pas facile à estimer, en plus parce que ce potentiel varie constamment. La FAO admet en général, tout le monde admet en général une valeur donnée par la FAO dans les années 70 qui tourne autour de 100 millions. C'est-à-dire qu'on pense qu'on doit pouvoir extraire 100 millions de tonnes de poissons en tout. Les pêcheries mondiales peuvent produire 100 millions de tonnes. On n'en est pas loin, comme vous le signaliez au début de cette émission. La production mondiale actuelle tourne autour de 100 millions. Donc nous avons, nous, l'impression que nous sommes pratiquement arrivés au plafond et qu'il sera difficile de produire davantage. Le gaspillage... Nous avons publié cette année une revue mondiale de l'état du gaspillage, après un inventaire assez complet de toutes les pêcheries mondiales et des quantités de poissons qui sont rejetées par ces pêcheries régulièrement.
Là, on a des chiffres absolument faramineux, puisque moi j'ai relevé que, par exemple, la pêche artisanale, c'est à peu près 20% des poissons pêchés qui sont rejetés à la mer par les pêcheurs, pas des pirogues, si vous voulez, et que pour la pêche industrielle, ça va encore beaucoup plus loin, puisqu'il y a à peu près 40% des poissons qui sont rejetés. Un seul exemple que j'ai relevé et que donne d'ailleurs, je crois, la FAO, c'est qu'à Madagascar, on pêche beaucoup la crevette. Pour 8000 tonnes de crevettes qui sont exportées par an, eh bien, il y a 30 000 tonnes de poissons qui sont rejetés à la mer et qui ne sont pas utilisés.
C'est exact, c'est-à-dire que le pourcentage de poissons rejetés varie bien sûr énormément. Les grandes flottes d'Europe de l'Est, lorsqu'elles pêchent du pélagique avec des bateaux de 70 mètres, ne rejettent pratiquement rien. Parce que ce qui est vendable en entier est vendu en poisson entier, ce qui est vendable en filet est vendu en filet, et tout ce qui n'est pas vendable de cette manière-là est transformé en farine, en pacté, séché ou en huile, et donc on ne rejette absolument rien. Mais à l'autre extrême, vous avez des pêcheries artisanales qui ne rejettent presque rien. Des gens, parce que les artisans, en général, ciblent bien leur capture, font chercher exactement les poissons dont ils ont besoin. Et dans beaucoup de pêcheries artisanales que je connais, en Afrique de l'Ouest, par exemple, les rejets sont très, très faibles. Quand ce sont, par exemple, des pêcheries à la ligne ou au filet maillant. En revanche, lorsque nous avons des pêcheries artisanales à la Seine de plage, par exemple, là, nous avons un problème, car ce sont des pêcheries qui ratissent des nurseries et qui ne gardent que les quelques adultes qui vivent dans la nurserie et qui laissent sur la plage des tas de plusieurs centaines de kilos de juvéniles qui font 2 ou 3 cm de longueur, et cela représente un véritable massacre. Les bateaux industriels, eux, nous avons calculé qu'ils rejettent entre 15 et 30 millions de tonnes par an. Et nous avons calculé que cela représente à peu près un tiers des captures. Mais encore une fois, il y a des bateaux qui ne rejettent pratiquement rien. Il y a des bateaux qui rejettent beaucoup. Et dans le cas des pêcheries que vous soulignez, c'est-à-dire les pêcheries crevettières, par exemple, mais c'est également vrai pour les pêcheries de céphalopodes, les pêcheries qui exploitent industrielles, qui exploitent les poulpes, les calmars. Ce sont des pêcheries terriblement ciblées qui recherchent une seule espèce et qui la conservent à bord dans des conditions extrêmement sophistiquées pour pouvoir obtenir le meilleur prix possible sur le marché et qui n'ont pas la possibilité physique de traiter le reste des captures. Et ces bateaux-là rejettent jusqu'à 90% de leurs captures.
Monsieur Laclé.
Oui, lorsqu'on parle de rejet, je me demande, moi, dans les pays de l'océan Indien, il n'est pas question de rejet. Vous voyez ? Parce que moi, j'ai les statistiques. À Maurice, la pêche artisanale nous donne 1700 tonnes. La pêche sportive, qui est consommée, 600 tonnes. Amateur, 300 tonnes. Sur les bancs, nous avons un quota. Personne, d'à partir de certaines ici, n'ont pas le droit de dépasser ce nom.
Mais comment vous allez vérifier ?
Mais lorsqu'ils retournent, les bateaux doivent être vérifiés. Ils doivent donner leur tonnage.
Oui, mais au retour, mais en mer, qu'est-ce qui les empêche de jeter la moitié de leur cargaison si la cargaison ne leur plaît pas ?
Non, sur les bancs, il n'y a qu'une seule des sortes de poissons qui sont bien prises, vous voyez, qui sont bien prisées dans le pays. Ils retournent avec leur prise parce qu'ils ont les moyens de vendre ces poissons sur les bancs.
C'est un peu le problème. Monsieur Garcia, le problème que je soulevais tout à l'heure, c'est que s'il s'agit de pêche, et c'est souvent le cas dans les pays îles, de pêche très ciblée avec des engins adaptés à une espèce très particulière, par exemple sur les bancs, lorsqu'à Maurice on fait de la capture de crevettes profondes avec des nasses, ces nasses ne capturent que des crevettes profondes et un ou deux poissons, et en général on ne rejette rien. Les rejets dans le monde sont surtout le fait de certaines pêcheries, par exemple les pêcheries chalutières, pour la grande majorité sont les pêcheries chalutières. Or Maurice, il n'y en a pratiquement pas.
Il n'y en a pas. Nous avons 11 000 tonnes de thon et l'aquaculture qui nous donne 80 tonnes. Tous ces produits sont bien prisés.
Ouais. Il y a sûrement des rejets.
Pas de rejet.
Je vais peut-être contredire le ministre des Pêches, pour une fois. Il y a sûrement des rejets dans la pêche au thon, par exemple. Parce qu'il est impossible de pêcher des thons à la longue ligne ou à la Seine sans attraper, par exemple, des dauphins ou à la longue ligne des requins, par exemple. Donc, selon les îles, si les requins sont prisés et consommés, ils seront débarqués. Et c'est le cas dans certaines îles. S'ils ne sont pas consommés, enfin, s'ils ne sont pas prisés, ils seront rejetés.
Mais, donc, on peut dire en gros que si vous voulez, les pertes qui sont dues à une mauvaise conservation sont plutôt dues à des pêcheurs artisanaux, alors que le gaspillage, les rejets de poissons à la mer, c'est plutôt dû à des chalutiers, à des flottes industrielles. Monsieur Garcia.
Oui, ce sont deux phénomènes différents. Les pêcheurs artisans, en général, ne rejettent rien, ou presque rien, pour la bonne raison qu'ils ne prennent que ceux qui sont venus chercher. En revanche, où il y a des problèmes en pêche artisanale, c'est dans la conservation du poisson et dans le transport, etc. Et là, il y a des pertes qu'on peut appeler gaspillage, mais qui sont des pertes dues à une mauvaise structuration du marché.
Oui, il y a des poissons, lorsque vous prenez le thon, même les requins. Si vous prenez quelques requins, mais c'est prisé. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la soupe, il y a la chair même.
Oui, mais ça se vend peut-être moins cher que de la poulpe
oui.
ou d'autres poissons.
Oui, moins cher. Et avec le requin, il y a un poisson qu'on appelle à Maurice les lézards, mais que les gens mangent. Ouais. Les bycatch, comme on dit. Moi, je vois à Maurice, il n'y a presque pas. Dans les grands pays, oui, on a des rejets, mais à Maurice, c'est moins. Le problème est moins.
Moins important à Maurice qu'ailleurs.
Moins important qu'ailleurs, oui.
Je crois qu'il est. Il est important de souligner que la tendance est favorable, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des rejets aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'on en parle et c'est aujourd'hui qu'on a fait des évaluations, mais la FAO a travaillé sur les rejets depuis 15 ans ou 20 ans. Je me rappelle d'évaluations que nous faisions en Afrique de l'Ouest dans les années 75-80. Et lorsqu'on retourne en Afrique de l'Ouest et qu'on regarde maintenant, on s'aperçoit que la quantité de rejets au large de l'Afrique de l'Ouest a diminué au moins de moitié. Il y a eu une époque, par exemple, où les crevettiers ne débarquaient que de la crevette, à 100%. Et puis les crevettiers ont commencé à débarquer 10 à 15% de leur cale en poissons frais. Et actuellement, les crevettiers débarquent presque 60 à 70% de leur cale en poissons. Ça veut dire qu'ils en rejettent de moins en moins. Et la raison, c'est que le marché s'est amélioré localement, les prix sont montés suffisamment pour justifier la conservation. Et donc, il y a une tendance générale à la baisse qui, bien sûr, est le résultat de la pression de la demande, de l'augmentation des prix. Donc, à la limite, lorsque le poisson deviendra vraiment très très cher, il n'y aura plus de rejet. Mais pour le moment, il y a un problème sérieux.
Tes questions.
Vladimir Monteron, agence Cabo Presse. Croyez-vous que la pêche pourrait devenir la solution au problème d'autosuffisance alimentaire, étant donné que les cycles répétés de sécheresse rendent incertaine la production agricole?
Abdelhamana, Radio Thomas, Moroni. Est-ce qu'un pays côtier peut développer une aquaculture pour nourrir la population?
Alors, Monsieur Laclé, à Maurice, quelle est la situation en particulier pour l'aquaculture? Vous êtes en train de développer une aquaculture. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose d'essentiel pour nourrir la population mauricienne?
Certainement. Oui, les ressources halieutiques sont surexploitées. Maintenant, à Maurice, on doit avoir nécessairement recours à l'aquaculture pour augmenter la production en milieu marin, bien qu'en milieu de douce et saumâtre. Et l'aquaculture à Maurice se fait dans le milieu marin, le douce et le saumâtre aussi. Nous avons vu que certains types de poissons peuvent se reproduire dans n'importe quelles conditions. Voyez, mais seulement les possibilités d'aquaculture à Maurice sont extensives, l'apport technologique minime, extensive et semi-intensive, et intensive et super-intensive là où l'apport technologique est conséquent. Vous voyez, les produits aquacoles sont destinés à la consommation humaine et c'est généralement consommé à l'état frais et il n'y a pas de rejet. C'est ça avec l'aquaculture.
Serge Garcia.
La pêche, la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire. Il y a plusieurs définitions de la sécurité alimentaire, mais parlons de la contribution de la pêche à l'alimentation en général. On peut la regarder sous deux angles. D'abord, la pêche des stocks sauvages. Nous avons déjà dit qu'on ne dépassera vraisemblablement pas les 100 millions au total. On pourra faire des efforts importants dans la pêche des stocks sauvages si on réussit à réduire les rejets, donc les gaspillages, et si on réussit à transférer une partie de ces rejets dans la consommation humaine. Il y a là une réserve d'une quinzaine de millions de tonnes. Il ne faut pas rêver, on n'arrivera pas à utiliser pour la consommation humaine tous ces rejets. Il y a des rejets qui sont rejetés tout simplement parce qu'ils ne sont tout simplement pas mangeables et le consommateur humain les refuserait tout simplement. En revanche, on peut regarder la pêche des stocks sauvages sous l'angle inverse, c'est-à-dire que si les gouvernements ne mettent pas en place les systèmes qu'il faut pour conserver ces ressources, la production va baisser. Et on parle très souvent de la nécessité d'augmenter la production de 10 millions de tonnes dans les années qui viennent. On tente à oublier, et la FAO le souligne, que si on ne fait rien dans 20 ans, il y aura 10 ou 15 millions de tonnes de moins, pas de plus. Donc, si on fait quelque chose pour la pêche, on risque de maintenir la production, et il faut la maintenir. Si on ne fait rien, on va créer un problème de sécurité alimentaire. En ce qui concerne l'aquaculture, en revanche, il y a un potentiel qui est clair. On pense que l'aquaculture devra produire dans les 20 années qui viennent, 20 millions de tonnes de plus. C'est-à-dire 1 million de tonnes de plus par an que ce qu'elle produit aujourd'hui.
Déjà, l'aquaculture intervient pour, je crois, 20% dans la pêche totale.
Elle intervient pour 20% dans la consommation par habitant, actuellement. C'est-à-dire dans la production totale, si vous voulez diviser par le nombre d'habitants. On pense que la production, produire 1 million de tonnes de plus par an dans les 20 ans qui viennent n'est pas impossible. Ça correspond à un taux d'accroissement qui est le taux d'accroissement actuel. Autrement dit, si l'aquaculture continue à augmenter comme elle le fait à l'heure actuelle, on devrait arriver à couvrir cette demande. Le vrai problème, c'est que malheureusement, ce n'est pas dans les pays où on a le plus besoin de sécurité alimentaire qu'on produit le plus d'aquaculture. Parce que, par exemple, l'Asie, qui est toujours citée comme un des grands leaders en aquaculture, possède beaucoup d'eau. Je crois que je n'ai pas la peine d'insister sur le fait que l'aquaculture, c'est la culture de l'eau. Et si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas cultiver grand-chose. Alors, tout le monde s'ébahit devant la capacité des Asiatiques à faire de l'aquaculture et entend oublier qu'ils tombent sur l'Asie 10 fois plus d'eau qu'ils en tombent sur l'Afrique. Alors, il ne viendrait à personne l'idée de comparer deux champs de dimensions inégales et de se demander pourquoi le champ le plus grand produit plus que le champ le plus petit. Mais en aquaculture, c'est le cas. Et en Afrique, où il y a un gros problème de sécurité alimentaire et où il faudrait que l'aquaculture produise les protéines nécessaires pour venir équilibrer au moins les régimes alimentaires de ces gens-là, c'est malheureusement le pays où il y a le moins d'eau. Nous avons calculé à la FAO que 30% seulement de la surface de l'Afrique est utilisable pour faire de l'aquaculture de subsistance. Et 15% seulement de la surface est utilisable pour faire de l'aquaculture commerciale. Ceci dit, à l'heure actuelle, nous utilisons 5% de l'Afrique.
Donc on peut encore multiplier les chiffres par 6.
Si les gouvernements font les efforts nécessaires, on peut produire davantage.
C'est là.
Paul Abledjama, Radio Côte d'Ivoire. Comment pensez-vous qu'on pourrait exploiter à fond nos fleuves et multiplier par la même occasion les étangs piscicoles?
Vladimir Montero, agence caverdienne de presse. Étant donné les problèmes d'infrastructure, comment est-ce possible d'améliorer la production en matière de pêche?
Oui,
Monsieur Laclé.
Pour l'aquaculture, il y a une seule voie. Pour les pays en développement, il faut passer par le transfert de technologie. Donner les moyens voulus à travers l'aide bilatérale ou multilatérale, et une fois avoir des provisions de variétés qui ont un taux de croissance plus élevé. Ouais, des poissons dans l'aquaculture qui se produisent plus vite et plus de taille plus grande. Et aussi, il faut voir les nourritures. Qu'on puisse produire les nourritures avec les ingrédients locaux en quantité voulue. C'est ça le gros problème de l'aquaculture. Pas question d'importer les nourritures, il faut avoir les nourritures sur place. Vous voyez, en ce qui nous concerne à l'île Maurice et peut-être plusieurs pays, nous avons eu l'assistance des pays comme le Japon, l'Inde, la Chine et la Malaisie en aquaculture, qui sont des pays bien avancés en aquaculture. Et je crois aussi, je viens de parler ce matin avec le directeur général des pêches italiennes, pour lui dire, pour le transfert de technologie, vous voyez, je vois ce qui se fait en Italie, pouvoir transposer dans les conditions et local, ce qui peut se faire à l'île Maurice, produisant plus de variétés et donnant plus de possibilités à l'aquaculture de progresser.
Serge Garcia.
On est censé répondre à la question?
Oui.
Non, parce que là, ça, c'est un point important aussi, mais ce sont deux...
Vous pensez que... Bon, je vais vous poser une question à ce moment-là. Le ministre Laclé pense que le transfert de technologie est essentiel. C'est également la position de la FAO.
Bon, en aquaculture, certainement, bien que dans les analyses que nous avons faites, et nous en avons fait énormément sur l'Afrique, l'Asie, et nous sommes en train de terminer l'Amérique latine, il semble que la contrainte essentielle au développement de l'aquaculture, en général, n'est pas le problème, n'est pas la technologie. Les technologies sont disponibles. En général, le secteur privé est assez capable de détecter les technologies et de les importer. En général, nous trouvons, nous, les facteurs limitants. Je dis toujours en général, ce n'est pas forcément vrai pour tous les pays et ce n'est pas forcément vrai pour Maurice aujourd'hui. Mais en général, le problème n'est pas dans le transfert de technologie, il est dans les priorités des gouvernements, dans les plans directeurs de l'aquaculture, dans les outils de support de l'aquaculture, plans de financement, système de crédit, etc. C'est au niveau de l'organisation du développement qu'on trouve des problèmes, pas au niveau de la technologie. Elle est disponible, elle est très facilement transférable une fois que les priorités ont été établies. Moi, j'ai quelques éléments pour répondre à la question qui avait été posée.
Ah, bon, d'accord. On va la réécouter, je pense.
Radio Côte d'Ivoire, comment pensez-vous qu'on pourrait exploiter à fond nos fleuves et multiplier par la même occasion les étangs piscicoles?
Vladimir Montero, agence caverdienne de presse. Étant donné les problèmes d'infrastructure, comment est-ce possible d'améliorer la production en matière de pêche?
Monsieur Garcia.
L'exploitation des fleuves et la productivité des étangs. Je ne suis pas un spécialiste des pêches continentales, mais je pourrais apporter peut-être deux ou trois éléments de réponse. Le problème des pêches continentales dans les rivières est en général un problème double. Il y a d'une part très souvent un problème de surexploitation, même en Afrique, et il y a d'autre part un problème de dégradation des cours d'eau. Donc si on voulait vraiment exploiter à fond un cours d'eau, comme le demande notre interlocuteur, et si on suppose que exploiter à fond un cours d'eau, ça veut dire essayer d'obtenir la production maximale qu'il est capable de produire dans des conditions durables, il faudrait d'abord éviter la dégradation des fleuves et la pollution. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut mettre en place des programmes de développement de l'agriculture assurant une utilisation minimale des engrais et des pesticides pour éviter de venir affecter la productivité des cours d'eau. Il faut aussi penser que on ne peut pas, avec un cours d'eau, développer à la fois le potentiel maximal de l'agriculture et le potentiel maximal des pêches, parce qu'on va être obligé de prélever de l'eau du fleuve pour l'irrigation, et il y a toujours un conflit entre irrigation, aquaculture et pêche continentale. Là, le fait qu'on modifie les régimes des fleuves, qu'on modifie les régimes saisonniers des fleuves, qu'on modifie leur débit, est quelque chose qui va modifier la productivité. Et donc, il existe dans tous les pays où il y a des fleuves un dilemme dans l'utilisation des fleuves. Il y a un problème d'utilisation intégrée et il n'est pas facile de dire quelle est l'utilisation optimale des fleuves compte tenu des autres intérêts. On a par exemple des exemples précis en ce moment dans certains pays d'Afrique du Nord, en Égypte par exemple, où il y a des conflits terribles entre l'utilisation de l'eau du Nil pour l'agriculture, qui est la priorité numéro un du gouvernement, et pour l'aquaculture, qui est la priorité numéro un du peuple qui vit autour. Et il est bien évident que les choix ne sont pas faciles. En ce qui concerne un point important pour les grands fleuves, c'est la nécessité d'avoir des accords internationaux. Car très souvent, la productivité d'un fleuve à un endroit donné dépend de ce qu'on fait sur ce fleuve en amont. D'où la nécessité de participer activement aux commissions internationales sur ces fleuves et aux discussions sur la gestion. En ce qui concerne les petits étangs, je pense que c'est une question intéressante et ça mérite peut-être une réponse soulignée. C'est que nous sommes convaincus à la FAO que dans l'aquaculture continentale, il y a un énorme potentiel de production disponible dans les petites pièces d'eau. On a beaucoup travaillé sur les grands lacs, on a beaucoup travaillé sur les rivières. Il existe des millions de petites pièces d'eau qui sont mal utilisées, mal gérées, qu'on laisse se dégrader, etc. Ils ne sont pas utilisés. Nous avons, à la FAO, fait un inventaire des technologies utilisables en Chine, mises au point par les paysans chinois au cours des 50 derniers siècles. Et nous essayons maintenant de les transférer ailleurs. Et nous avons découvert qu'il y a des technologies très sophistiquées qui permettraient aux agriculteurs de gérer de manière intégrée leur terroir et leurs petits étangs pour optimiser la production de poissons et de produits agricoles.
C'est ce que vous faites d'ailleurs un petit peu à Maurice, c'est de l'aquaculture dans de toutes petites pièces d'eau.
Mais là, M. Garcia a touché du doigt le problème principal, la pollution. Maurice étant un pays industrialisé, inévitablement les déchets industriels se retrouvent dans les lagons. Ça nous cause d'énormes problèmes. Et là, le gouvernement prend des décisions, vous voyez, pour pouvoir recycler ce déchet, améliorer, pour ne pas produire des... Vous voyez, ça tue les coraux, les experts. M. Garcia connaît un peu le problème. Vous voyez, dans les rivières, là où les rivières débouchent vers la mer, heureusement, à Maurice, dans les pays de la région de l'océan Indien, nous n'avons pas des grands fleuves comme en Afrique. Mais ça nous cause d'énormes problèmes, la pollution.
On va y revenir sur les problèmes de l'environnement. Oui.
Amadou Lamine Samb, Radiodiffusion Télévision du Sénégal. Dans un pays côtier du Sahel, comme le Sénégal, qui connaît des cycles de sécheresse et un processus de désertification, la pêche artisanale, qui ne bénéficie presque pas d'investissement par rapport à l'agriculture et au reboisement, fournit environ 65% de la production de poissons pour la majorité de la population. Comment inverser la tendance dans une perspective d'autosuffisance alimentaire?
Abdelhamouana, Radio Tomo, Moroni. Quelle politique de développement doit adopter des pays insulaires avec des îles autour, comme le cas des Comores, en voie de développement pour assurer son autosuffisance alimentaire tout en sachant que la pêche pratiquée est de type artisanal alors que les possibilités qui s'offrent c'est la pêche pélagique, le thon par exemple, qui se trouve à plusieurs milles des côtes.
Eugène Kouadé, Radio Cotonou. L'idée de sécurité dans le domaine de la pêche suppose que ce secteur soit générateur d'emplois, de protéines et de revenus pour les communautés de pêcheurs. Vu sous cet angle, la FAO envisage-t-elle de modifier sa stratégie de transfert de technologie ou d'aménagement durable?
Ousmane Mega, journaliste à l'Essor, la pêche peut apporter des revenus substantiels à l'économie malienne, aussi bien au niveau interne qu'externe. Dans quelle mesure la FAO peut-elle intervenir pour aider le Mali à faire de la pêche un des piliers de son économie?
Serge Garcia.
Bon, j'ai un peu de mal là parce que je m'attendais à ce qu'on réponde à la première question. En fait, on a entendu toute une série. Est-ce qu'on peut situer les thèmes sur lesquels on est obligé de discuter, parce que j'ai l'impression qu'ils étaient un peu convergents, mais il y a quand même pas de
différence. C'est tout à fait convergent. Disons qu'on va commencer par quelle aide la FAO peut apporter pour justement aider au transfert de technologies, aider aux aménagements des infrastructures de pêche, aider à ce que la pêche dans les pays africains devienne des piliers des économies des pays africains.
La FAO a fait énormément de transferts de technologies depuis sa création, puisqu'elle a pratiquement été créée pour cela. Et en particulier en faveur de la pêche, nous avons toujours eu au département des pêches un programme très étoffé de transfert de technologie. La FAO a introduit des nouveaux types d'embarcations, des nouveaux types de moteurs. Elle a introduit, par exemple, la scène tournante au Sénégal, qui a eu le succès que l'on connaît, au point que la pêche artisanale a conduit à l'effondrement de la pêche industrielle, dans ce cas-là. C'est un phénomène inverse de celui que l'on observe d'habitude. La FAO a introduit les cales à glace dans les pirogues, elle a amélioré les pirogues et les conditions de travail en mer des pêcheurs énormément. Elle travaille sur la côte d'Afrique, par exemple, pour essayer de trouver des embarcations qui ne soient pas construites avec du bois. Vous savez que dans des pays comme le Ghana, il reste à peu près une dizaine d'années. Au-delà des 10 prochaines années, il n'y aura plus un seul arbre au Ghana capable de construire la pirogue. Or, la pirogue ghanéenne est la base de toute l'économie littorale des pêches ghanéennes. Nous avons là un gros problème. Nous avons fait énormément de transferts et je devrais aussi ajouter que depuis une bonne quinzaine d'années, la plupart des programmes de transfert de technologie de la FAO sont en faveur des pêches artisanales. C'est-à-dire qu'on s'est surtout occupé de embarcations artisanales, petits moteurs, beaucoup de travail aussi sur les installations à terre, construction de petits ports, d'abris, développement de systèmes de crédit pour les artisans, etc.
Mais est-ce qu'on peut dire que la pêche, comme dit l'un de nos confrères, la pêche bénéficie de moins de supports, de moins d'appuis, de moins de ressources que l'agriculture ou la forêt?
Certainement. De la part des gouvernements, certainement. Et donc la pêche, là c'est un domaine où il est très difficile de généraliser parce qu'il y a des pays où la pêche a eu des supports considérables de la part des gouvernements. Mais en général, dans les pays qui intéressent la FAO, dans les pays en développement, la pêche a toujours été un parent pauvre et à l'intérieur de la pêche artisanale qui elle a bénéficié vraiment de presque rien du tout.
Monsieur Laclé, vous êtes un ministre pauvre au sein du gouvernement mauricien.
Écoutez, là je rejoins Monsieur Garcia lorsqu'il dit la pêche artisanale est l'enfant pauvre du développement. Je suis entièrement d'accord. C'est une constatation générale, pas dans un pays, mais dans les pays en développement en général.
Mais alors qu'est-ce que vous faites justement pour combattre cette situation?
C'est à cause de ça que le gouvernement de l'île Maurice a scindé le ministère en deux, l'agriculture d'un côté et la pêche d'un autre côté, pour donner un nouveau souffle à ce ministère, parce que dans les années à venir, la pêche va prendre un nouvel essor. Oui. Et le grand problème dans la pêche artisanale, c'est un manque d'organisation. Vous voyez? De nature, même s'ils sont groupés en coopérative ou en association, les pêcheurs, à travers le monde, sont des individualistes. Vous voyez? Mais ce que nous pouvons faire, vous voyez, parce que depuis que je suis au ministère de la pêche, vous voyez, j'ai toujours parlé aux pêcheurs, le gouvernement, dans plusieurs pays, donne des lignes de crédit à des faibles taux d'intérêt pour améliorer les outils de travail. Vous voyez? Ils peuvent en bénéficier. Mais seulement, le problème, c'est que nous tournons en rond le problème de garantie collatérale. Vous voyez? C'est ça que, au niveau du gouvernement de Maurice, nous sommes en train de voir là où les pêcheurs, qui sont les plus marginaux, peuvent avoir des meilleures possibilités pour leurs outils de travail, en donnant moins de garanties, mais seulement en étant des types sérieux.
Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée, monsieur le ministre, de la différence de budget entre votre budget en tant que ministre de la Pêche et le budget de votre collègue du ministère de l'Agriculture?
Non, je ne veux pas le comparer, parce que moi j'ai eu un premier budget, mais seulement cette année-ci, je dois vous dire, je vais me battre pour avoir plus de possibilités.
Mais là, aujourd'hui, il est trois fois inférieur, deux fois inférieur, cinq fois inférieur.
Peut-être deux ou trois fois, mais cette année-ci, en juin, ce ne sera pas plus le même cas. Parce que là, vous voyez, ce que nous faisons. Là, je vais vous dire plusieurs choses que nous faisons. Nous avons des lignes de crédit à faible taux d'intérêt pour l'achat des pirogues ou des engins de pêche. Mais seulement, maintenant, je vais vous dire, je ne veux plus qu'on aille dans ces petites embarcations. Il faut des bateaux plus sophistiqués, ayant les appareils, les voulus, pour aller le plus loin possible. Voyez, pêchant par 4 ou 5 pêcheurs, voyez, disons, sautant le lundi, faisant une semaine de travail, semi-auturier, si vous voulez. Et nous avons aussi des allocations sociales pour les pêcheurs. Des pêcheurs artisanaux, et comme il dit, dans question de mauvais temps ou pendant la fermeture, parce que nous avons une fermeture pour contrôler le stock, nous avons une fermeture de la Seine. Et là, nous donnons des possibilités aux pêcheurs. Nous avons tous les 3 ans des moteurs hors bord pour les pêcheurs et nous faisons provision pour des gilets de sauvetage. Et sur toute la question de sauvetage, plus tard, on va parler de ça. Et nous donnons des bourses aux enfants de pêcheurs et des cours de formation pour les pêcheurs, comme formation sur la sécurité. Et aussi pour nous, pour l'île Maurice, ce serait faux de dire qu'on a délaissé la pêche artisanale.
Ouais. Serge Garcia.
D'abord, très brièvement, pour dire que tout ce que je viens d'entendre est bien sûr absolument correct, que la tendance s'inverse. On voit actuellement de plus en plus de gouvernements se tournant vers la pêche artisanale. Pourquoi ? Je soupçonne que c'est parce qu'ils ont perdu tellement d'argent sur la pêche industrielle qu'ils se disent qu'il est temps de s'occuper de la pêche artisanale, en partie. Je ne parle pas de l'île Maurice, mais en général, dans les pays que je connais et qui ont dépensé beaucoup en pêche industrielle, ils ont perdu énormément d'argent, la Banque mondiale également, et donc on commence à se dire qu'il est temps de ne plus financer une pêche qui perd et d'essayer de financer une pêche qui pourrait gagner, qui est la pêche artisanale. Mais le point qui m'intéressait dans le discours de M. le ministre des Pêches de Maurice, c'est sa référence aux prêts, aux possibilités de prêter de l'argent aux artisans et à l'absence de garantie. Ça, c'est un problème grave parce que tout le monde sait que dans toutes les pêches artisanales, il y a un problème de crédit. Et le problème est toujours posé dans les termes suivants. Les mareyeurs, ceux qui achètent le poisson aux artisans, les exploitent parce qu'ils leur prêtent de l'argent à un taux très élevé. Mais aucun gouvernement n'a jamais trouvé un moyen de prêter de manière aussi efficace et à un taux moindre de l'argent aux pêcheurs artisans. L'État peut le faire parce que l'État n'est pas censé faire des bénéfices, mais les mareyeurs, oui. Le vrai problème, et c'est celui-là que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une différence entre un petit fermier et un petit pêcheur. Et la différence, c'est que le petit fermier, il possède quelques arpents de terre qu'il peut donner en garantie en échange d'un prêt. Le petit pêcheur n'a rien à donner en garantie.
Si un bateau qui peut couler.
Le bateau. Non, mais pourquoi ? Parce que le pêcheur artisan est potentiellement propriétaire d'une ressource qu'il exploite depuis 1000 ans en tant que pêcheur artisan, mais que ses droits n'ont jamais été reconnus, jamais été signés et qu'il ne peut donc pas les donner en garantie. Et la FAO aimerait bien que l'on change de discours et qu'au lieu de penser toujours en termes d'assistance des gouvernements vers les pêcheurs artisans, on voudrait que les États définissent des droits territoriaux pour les pêcheurs artisans, qu'ils leur attribuent la propriété et la responsabilité de certaines ressources de façon à ce que les artisans puissent eux aussi, en échange de ce droit, obtenir des prêts bancaires.
Amadou Lamine Sambre, Radio-Diffusion, Télévision du Sénégal. Des pays en développement signent des accords de pêche avec des pays industrialisés qui viennent avec des bateaux-usines pour pêcher dans nos eaux en grande quantité et procéder à la conservation en boîte, moyennant des sommes modiques par rapport à ce qu'ils exploitent. Aujourd'hui, nos pêcheurs, pour avoir du poisson, mettent au moins 4 fois plus de temps pour aller jusqu'en haute mer, trouver un peu de poisson et en deçà de ce qu'ils pêchaient. Alors, comment entretenir des relations correctes avec des pays de pêche sans pour autant épuiser nos ressources halieutiques ?
Abdelhamouana, Radio Thomas, Moroni. Comment résoudre le problème de sous-développement alimentaire en Afrique en sachant que ces pays exportent des milliers de poissons en Europe alors que même dans leur pays, les gens meurent de faim ? Comment renverser l'ordre des choses ?
Alors, M. Laclais, les relations avec les pays qui possèdent de grosses flottilles industrielles, comment est-ce que ça se passe chez vous ?
Vous savez, nous avons un accord avec la communauté économique européenne donnant des licences pour 20 bateaux. Mais seulement, nous n'allons pas au-delà de là, parce que nous avons un contrôle. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Si vous voulez donner plus de licences, il ne faut pas dire qu'on vous paye vos ressources. Il faut savoir faire. Vous voyez la marge, vous voyez, de dire j'ai tant. Voir l'intérêt du pays avant. L'intérêt du pays et l'intérêt des gens de ce pays.
Mais est-ce que vous considérez, à Maurice, en général, si vous voulez, que les grosses flottes de pêche pillent vos ressources ?
Non, ce que nous donnons de licence, vous voyez, généralement, lorsque nous donnons des licences, nous ne croyons pas qu'ils pillent nos ressources. Mais seulement, il faut le dire, l'île Maurice, jusqu'à l'heure, n'a pas le moyen de cette surveillance. Mais d'ici le commencement de l'année, nous avons commandé un bateau patrouilleur, avec hélicoptère. Et nous allons là, nous allons demander l'aide des pays amis qui ont une certaine expérience sur la surveillance des zones côtières pour nous aider à la surveillance. Mais seulement, il faudrait qu'il y ait coopération entre les pays de la région, comme les Seychelles, Madagascar et Comores et la Réunion, pour pouvoir contrôler cette zone. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Il nous faut la surveillance, même si nous donnons, comme les Seychelles donnent des licences, mais avec la surveillance, on peut contrôler ces bateaux qui pêchent dans les eaux internationales, même dans nos eaux. Oui, mais seulement, il faudrait limiter le nombre, pas de la surexploitation.
On fait une pause, là. Vous voulez téléphoner vous...
Non, il faudrait qu'on dise que je suis coincé ici, que je ne pourrais pas aller.
D'accord. Bon, OK. Serge Garcia, justement, le problème de ces licences qui sont attribuées aux flottes, aux grosses flottes de chalutiers, est-ce que c'est un des problèmes majeurs actuels ?
Je pense que c'est un problème qu'il faut. C'est une question qu'il faut considérer sous deux angles différents. C'est un problème et c'est une opportunité. Ça, c'est un problème pour les pêcheurs qui voient des bateaux arriver souvent en compétition avec eux. C'est une opportunité pour l'État qui voit débarquer dans ses caisses des centaines de millions de dollars. Parce que notre interlocuteur a parlé de sommes modiques. La FAO a une base de données sur les accords internationaux de pêche. Et je puis vous garantir que la partie publique de l'accord, parce que tous les accords ont des parties plus ou moins secrètes pour lesquelles auxquelles nous n'avons pas accès, mais je vous garantis que les sommes impliquées dans la partie publique des accords sont des sommes qui sont loin d'être des sommes modiques. On parle de centaines de millions de dollars par an. Ce sont des rentes énormes.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, contrairement à l'agriculture, la pêche offre aux pays en voie de développement des possibilités d'exportation et d'obtention de devises très supérieures justement à l'agriculture ?
Je ne sais pas s'il faut généraliser, pas toujours. La FAO essaye toujours de faire poser au gouvernement le problème dans des termes qui soient des termes complets. C'est-à-dire, la pêche industrielle étrangère a un rôle à jouer dans la mesure où elle apporte des devises, dans la mesure où elle apporte souvent, par exemple, des capacités de traitement de poissons qui ne sont pas disponibles localement ou des capacités de capture qu'on n'a pas. Par exemple, je connais un pays d'Afrique, récemment, qui a décidé d'offrir 500 000 tonnes de poissons pélagiques, tout simplement parce qu'ils sont dans une région du pays où il n'y a personne, où l'exploitation n'est faite par personne, et donc il est très pratique de prendre une flotte étrangère et de lui demander de venir faire une exploitation. On en retire de l'argent, et si ça tourne mal, on la renvoie. C'est très souple. Il ne faut pas oublier qu'un gouvernement qui se trompe et qui investit dans une énorme flotte et qui après ne sait pas quoi en faire, se retrouve avec des coûts supplémentaires. Donc il y a d'un côté l'opportunité représentée par ces flottes, d'autre part le danger de l'effort de pêche très important qu'elles représentent. Il est bien évident que si le revenu qui est tiré de ces flottes est réintégré dans l'économie de manière judicieuse et si la flotte est contrôlée du point de vue de sa taille et de ses prélèvements, ça peut être un apport positif. Il est aussi vrai que si un gouvernement dans un pays vend à une flotte étrangère la même ressource qu'il a déjà vendue à ses propres pêcheurs, il crée un conflit entre ses propres pêcheurs et les étrangers.
Il y a quand même le cas, par exemple, de la Namibie, qui a été un des pays les plus pillés par les flottes étrangères. Et je crois que c'est d'ailleurs la FAO qui a chiffré que cela avait coûté 375 millions de dollars par an à la Namibie, et cela pendant 30 ans. C'est quand même un magot absolument colossal. C'est un pillage de ce pays.
Oui, c'est vrai, la Namibie, comme vous le savez, n'avait ses eaux sous juridiction qu'à 12 000. Donc tous les poissons situés au large des 12 000 étaient exploitables par les flottes étrangères de la région. Le poisson n'appartenait pas légalement à la Namibie, il appartenait à tout le monde. Ce qui est vrai, donc quand on parle de pertes, je crois qu'il serait un peu injuste de dire que cet argent sortait de la poche de la Namibie. Une partie de ce poisson, certainement, parce qu'il y a un lien entre le poisson qui est à l'intérieur de la Namibie, de l'époque, et le poisson qui est à l'extérieur. Mais il y avait une perte globale sur cette ressource qui est la même que la FAO chiffre sur la plupart des stocks du monde. Vous savez, on peut prendre n'importe quel pays d'Afrique ayant une ressource halieutique relativement importante, comme la Namibie ou moins. Chaque fois que l'on fait le calcul, on trouve des pertes qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars par an. De manque à gagner ou des pertes selon la manière dont c'est considéré. Et c'est pour cela que la FAO a calculé que pour le monde entier, nous perdons chaque année 54 000 millions de dollars. Ce n'est pas seulement les flottes étrangères, c'est aussi les flottes nationales qui sont trop importantes, etc. Ceci dit, la Namibie était pillée, les quotas n'étaient en général pas respectés, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de surveillance, les stocks se sont effondrés très très rapidement. Nous savons maintenant, parce que le gouvernement namibien, qui est maintenant propriétaire des 200 000, a pris des mesures d'aménagement extrêmement draconiennes, nous savons, et c'est un bon signal, que les ressources de la Namibie sont en reconstruction extrêmement rapide.
Amadou Lamine Samb, Radiodiffusion Télévision du Sénégal. La pêche artisanale, qui est un secteur économique très porteur, connaît des difficultés d'organisation aussi bien à la production qu'à l'écoulement et les pêcheurs sont sous-équipés. Existe-t-il des expériences où la pêche artisanale peut réellement aider les populations à atteindre un meilleur niveau de vie?
Pour l'Abidjan Radio Côte d'Ivoire, y a-t-il dans le monde des écoles de formation de pêcheurs pour l'exploitation des produits de la mer ou des fleuves? Si oui, combien y en a-t-il en Afrique?
Vladimir Montero, Cabo Press. Vous avez mis au plan une ligne de crédit pour les pêcheurs locaux. En quoi consiste ce crédit? Quelle est l'adhésion actuelle à cette initiative? Ne risque-t-elle pas de rendre plus cher le poisson?
Eugène Padé, Radio Cotonou. La question de technologie de capture demeure entière dans la plupart des pays africains à faible revenu. Y a-t-il au niveau de la FAO un programme d'assistance ciblé pour améliorer les pratiques courantes? Dans ce cadre, quel sera le rôle et la place de la femme qui joue un rôle très sensible dans les problèmes de sécurité alimentaire?
Serge Garcia.
Les pratiques courantes de quoi?
Est-ce
que la FAO a un programme pour améliorer les pratiques courantes de
la pêche, je suppose.
Il a parlé du rôle de la femme. Après, il parlait de transformation.
Après, il parle du rôle de la femme. Bon, mais alors, Serge Garcia, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous voulez, pour améliorer justement le sort des pêcheurs dans la plupart des pays en voie de développement? Comment est-ce qu'on peut soutenir cette pêche artisanale? Est-ce qu'il faut dénoncer les contrats? Est-ce qu'il faut encore étendre le domaine maritime des différents pays pour dépasser les 200 000? Est-ce qu'il faut subventionner l'essence des pêcheurs? Quelles sont les mesures les plus urgentes à prendre justement pour soutenir ce secteur?
D'abord, il est intéressant d'entendre que la question est posée par un journaliste du Sénégal qui demande comment améliorer le niveau de vie des pêcheurs. Moi, j'ai travaillé au Sénégal et je me rappelle quand les pêcheurs sénégalais avaient le niveau de vie le plus élevé du Sénégal. C'est-à-dire que le salaire moyen d'un pêcheur sénégalais était bien supérieur au salaire obtenu dans l'agriculture. Je me rappelle d'une première analyse socio-économique faite au Sénégal, dans laquelle nous avions découvert que les femmes des pêcheurs sénégalais étaient jeunes, bien habillées, bien équipées, démontrant des ressources suffisantes, avec des bijoux relativement abondants, en or, etc. Et à l'époque, nos socio-économistes nous avaient expliqué que c'était une pêche en pleine expansion et une pêche riche, générant des revenus, ce qui était vrai. Ce qui est vrai depuis, c'est que le gouvernement sénégalais a laissé l'effort de pêche s'accroître énormément, d'une part chez les nationaux, et la pêche artisanale a mis KO la pêche artisanale sardinière, a mis KO la pêche industrielle sardinière du Sénégal. C'était une espèce de victoire du système artisanal plus performant. Mais la pêche au Sénégal a continué à augmenter avec de plus en plus de chalutiers nationaux qui se sont diversifiés, qui se sont équipés, qui se sont renforcés. Il y a eu beaucoup d'accords faits avec les pays étrangers et à l'heure actuelle, les ressources sénégalaises sont soumises à des tensions extrêmement fortes. Et bien entendu, les pêcheurs artisans qui exploitent les mêmes ressources ressentent également ce problème. Comment améliorer le niveau de vie des pêcheurs artisans en général? Il n'y a qu'une seule solution, c'est faire en sorte que la rentabilité des pêches artisanales soit meilleure. Pour rentabiliser la pêche artisanale, il y a une nécessité absolue, c'est d'améliorer l'état des ressources. Il est bien évident que si on double la biomasse, on va doubler les rendements des pêcheurs. Et donc, on va améliorer leurs revenus. Donc, l'amélioration du niveau de vie des artisans passe d'une part par une gestion rationnelle des ressources. Si on ne fait rien, il est clair que les artisans, comme ceux du Sénégal qui étaient très riches il y a quelques années, qui sont seulement moyennement riches maintenant, pourraient très bien devenir extrêmement pauvres quand la population du Sénégal aura doublé. Donc,
mais est-ce que vous ne rentrez pas un petit peu dans une espèce de cercle vicieux? C'est-à-dire que vous améliorez les conditions des pêcheurs artisans, vous leur fournissez des pirogues plus compétitives, vous leur fournissez des moteurs, vous leur fournissez des moyens de pêche plus efficaces, et en même temps, le nombre de poissons diminue. Merci. Monsieur Laclé.
Allez. Moi, je crois la progression, le progrès au niveau de la pêche artisanale, ça passe par la formation des pêcheurs professionnels. L'année dernière, à la Réunion aux Seychelles, je me suis battu pour que les pêcheurs puissent avoir de la formation.
Quand vous parlez des pêcheurs professionnels, il s'agit de la pêche artisanale. Il ne s'agit pas des pêcheurs professionnels sur chalutier.
Non, artisanal. De la pêche artisanale, hein, c'est leur profession, ça. La formation, mais pas seulement la formation au niveau de pêche, mais la formation au niveau de la gestion, du marketing. Et aujourd'hui, on fait une expérience. Il y a une association de pêcheurs. On a commencé par faire une expérience à l'île Maurice. Ils vont pêcher à la Seine, ils retournent. Ils vendent leurs produits eux-mêmes. Ils vendent à 25 roupies mauriciennes la livre. Mais s'ils donnent ça aux marieurs, ils donnent ça à 15 roupies. Mais il faut leur donner les moyens, ouais, de gestion, des chambres froides, tout ça. C'est à leur profit et au profit des consommateurs. Lorsque les marieurs vendent ça sur le marché, ils vendent ça à 40 et 50 roupies. Tout là. Vous voyez ?
Serge Garcia.
C'est un exemple intéressant parce qu'il est exact qu'il faut travailler dans les deux directions, c'est-à-dire améliorer les ressources sur lesquelles les artisans travaillent, donc améliorer la productivité de leur système et d'autre part améliorer la valeur qu'ils tirent des captures qu'ils vendent. Souvent, lorsqu'on entend des exemples de ce style-là, je ne sais pas dans le cas particulier de Maurice, mais on fait souvent la comparaison un peu de la manière dont elle vient d'être faite. C'est-à-dire qu'on dit, vous voyez, quand le marailleur est là, le pêcheur gagne moins. Et si l'État fournissait les routes, les chambres froides, les camions et tout le système, les pêcheurs gagneraient davantage. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'État qui assume toutes les dépenses. Et donc, évidemment, le pêcheur gagne davantage, les marailleurs disparaissent.
Mais ça coûte plus à l'État.
Ça coûte plus à l'État. Donc le problème existe toujours. Est-ce que l'on rend les pêcheurs responsables et on peut développer des systèmes de crédit privés, auquel cas le système est durable, ou bien est-ce que c'est l'État qui vient d'assistance aux pêcheurs? Et si c'est un système d'assistance, l'expérience montre qu'il arrive toujours un moment où cette assistance ne peut plus continuer. Ceci dit, l'instruction, très important, le problème soulevé par
Miss. Je ne parle pas d'assistance. Le type qui veut vendre ses produits, il achète son freezer à Maurice, il achète ça au départ. Un gros friseur, il le met dedans, attention que la prise, oui.
Monsieur le ministre, excusez-moi, ce qui est valable pour Maurice, qui est une toute petite île, les plus difficiles peut-être pour un pays comme l'Angola ou comme la Namibie.
C'est ça, dans les grands pays africains, ouest africains par exemple, où il y a des pêcheries répandues sur des centaines de kilomètres avec des pistes en hiver qui sont dans un état lamentable, on s'aperçoit que le marailleur en question, c'est lui qui perd les camions, crève les roues, verse dans les fossés, et d'où les coûts du mariage.
Monsieur Garcia, c'est toute une question de volonté. Le tout est là.
Une question encore, M. Garcia. Est-ce qu'on ne va pas vers une disparition de la pêche industrielle à terme, étant donné que cette pêche industrielle coûte justement des sommes absolument astronomiques? On parle de 22 milliards de dollars par an de pertes, justement, de cette flotte industrielle. Et par rapport à la pêche artisanale, qui, elle, augmente de plus en plus ses prises, qui prend une part de marché de plus en plus importante, est-ce que ce ne serait pas souhaitable, finalement, que cette grosse pêche industrielle disparaisse?
Je ne sais pas si c'est souhaitable. Je ne crois pas que ce soit possible. Et vraisemblablement, je ne crois pas que ce soit non plus souhaitable en tant que tel. Lorsqu'on dit que la pêche industrielle perd de l'argent, c'est souvent faux d'ailleurs. Les armateurs gagnent assez d'argent pour rentabiliser leur exploitation. C'est l'État qui perd de l'argent parce que la rente est dissipée à travers l'excès de bateaux et l'excès d'usines, etc., dans lesquels on a investi. Le vrai problème, c'est que donc elle ne perd pas parce qu'elle est industrielle. Elle perd parce qu'il y a trop de bateaux et trop d'usines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette pêche industrielle est en train d'évoluer. Elle devient... C'est vrai qu'on utilise des bateaux de plus en plus petits. On utilise des bateaux de plus en plus... comment est-ce que je pourrais dire? On utilise des bateaux qui ont la capacité d'utiliser un grand nombre de technologies. Et non plus, comme dans le temps, des bateaux extrêmement spécialisés. On utilise maintenant des bateaux plus opportunistes, capables de changer de cible, etc. Le vrai problème, je crois, c'est que la pêche industrielle ne peut pas disparaître pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a des ressources qui ne peuvent pas être exploitées de manière artisanale, à moins qu'on change la définition de la pêche artisanale. Vous avez des ressources qui vivent en banc de 100 tonnes et qui vivent à 50 000 des côtes, dans des zones où la mer est très forte. Je passe de certaines régions au large de la Mauritanie. Il est hors de question d'exploiter, par exemple, les maquereaux, les chinchards et les sardines de Mauritanie avec des pirogues. C'est hors de question, à moins de vouloir mettre en danger la vie de tous ces gens-là tous les jours. Donc, ce n'est pas possible. Il y a un autre problème qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de pêche artisanale, on parle très souvent de pêche rurale, distribuée le long du littoral. Ça, c'est le rêve d'aujourd'hui. Quand vous regardez les prédictions des Nations Unies, la moitié de la population mondiale dans 25 ans vivra dans la zone côtière. Et 60% de cette population vivra dans des mégalopoles de plusieurs dizaines de millions d'habitants concentrés en un seul endroit. Vous ne pourrez pas les alimenter avec des pirogues. Et ça, les ministres des pêches qui ont le soin d'alimenter des grandes villes le savent. Et je me rappelle du ministre des pêches de Côte d'Ivoire il y a de nombreuses années qui me disait « J'ai une ville d'Abidjan, il me faut tant de dizaines de tonnes de sardines instantanément le matin au marché, mes pirogues ne me fourniront jamais ces quantités, il me faut des sardiniers. » Et il avait raison. Donc, quand on regarde le problème des mégalopoles, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, avoir une certaine forme de pêche industrielle rationnelle.
Monsieur le ministre. Oui.
Les poissons migratoires. Il faudra toujours la pêche industrielle.
Oui, celui-là.
Oui. Ouais, pour aller vers le large. Ça va exister toujours. Mais je ne crois pas que la pêche industrielle ne soit pas rentable.
Finalement, on pêche de plus en plus de poissons. Mais le poisson est devenu un produit cher pour les riches et rare pour les pauvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette espèce d'axiome, monsieur le ministre?
Non, vous voyez, ça dépend des pays. Rare pour les pauvres
et cher
non,
pour les riches.
Non, parce que là, je vais vous dire une affaire. Peut-être le gouvernement, dans certains pays, doit subventionner les pêcheurs pour que les prises soient au niveau moyen, pour que les gens puissent être abordables aux gens. Parce que n'oublions pas que le poisson, c'est un produit essentiel à l'homme. C'est ça, le gouvernement a une très grande responsabilité de faire que les prix soient au niveau abordable. Je ne veux pas dire le plus bas.
Ça veut dire que le poisson doit être subventionné.
Bah oui. Moi, je vais le dire, franchement. Parce que, pas subventionné comme quoi, on donne un prix pour ça, mais en termes de gens qui vont pêcher, lorsque vous donnez certaines possibilités, certains moyens. Mais c'est ça, la subvention.
Oui. Serge Garcia.
Je crois que c'est vrai. En général, à l'échelon mondial, il est vrai que le poisson est de plus en plus cher, le prix n'arrête pas de grimper. Et il est vrai que c'est ça, cette remontée continuelle des prix, c'est ce phénomène qui maintient la surexploitation. Autrement, bien des flottes de pêche auraient arrêté de travailler depuis bien longtemps. Donc le prix augmente, c'est un fait. C'est vrai aussi que le poisson est un aliment pour pays riches. On parle souvent de l'aliment des pays pauvres, mais en fait, l'histoire montre que c'est avec le niveau de développement que la quantité de poissons consommés augmente. C'est pas vrai dans les pays îles, par exemple. Mais en général, dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord, etc., c'est avec la remontée des revenus que les gens consomment davantage de poissons. Et d'ailleurs, toutes les données de la FAO montrent que le commerce international des pays en développement vers les pays développés est en train d'augmenter à un taux qui est assez intéressant. D'un côté, on dit que c'est formidable parce que les pays en développement génèrent des devises, comme vous le disiez tout à l'heure, à travers ce commerce. De notre côté, on oublie une chose, ce qui est en train de se passer, c'est que les riches sont en train de manger en grande partie le poisson des pauvres et qu'à partir du moment où il y a commerce international, les prix doivent s'aligner. Et je connais beaucoup d'exemples de pays qui, à partir du moment où ils se sont mis à exporter, ont commencé à avoir des problèmes d'approvisionnement de leur marché national. Je ne prendrai que l'exemple de la Tunisie, où du jour où le gouvernement tunisien a autorisé l'exportation des poissons, qui restait interdite pendant de nombreuses années, le prix des poissons a triplé, quadruplé, parce qu'il s'est aligné sur l'Italie, qui était juste en face. Donc, en général, c'est vrai, le poisson devient de plus en plus un aliment pour les riches, et il y a de plus en plus un appel qui fait que le poisson vient des pays pauvres et est consommé dans les pays riches. Et il y a là un danger potentiel que la FAO a souligné, c'est que vous avez dans les pays riches trop de bateaux. Pour s'en débarrasser, on les fait cadeau en quelque sorte aux pays pauvres. Vous avez du poisson dans les pays pauvres qu'on importe en grande quantité dans les pays riches. Si on continue comme ça, dans les pays pauvres, il n'y aura bientôt plus que des carcasses de bateaux et dans les pays riches, il n'y aura plus de poisson à manger.
Vous voyez, et à Maurice, nous avons certains types de poissons qui ne sont pas... qu'on ne donne pas la permission d'exporter. Les poissons les plus prisés par les gens. Oui, on n'exporte pas. Les poissons qu'on pêche sur les bancs, ce n'est pas possible d'exporter. Il faut qu'on les vende dans le pays,
Sénégal,
pour la consommation.
Au Sénégal, il n'y a plus de... Tu sais que le plat national du Sénégal, c'est le tiboudiem, c'est du riz avec du mérou. Et j'ai entendu plusieurs fois les Sénégalais me dire il n'y a plus de mérou au Sénégal. On est obligé de mettre autre chose à la place. Parce que le mérou est exporté sur l'Europe.
C'était question sur la pêche, une émission réalisée à Rome en coproduction avec la FAO. Mathieu Ange Laclé, Serge Garcia, merci.